Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Quand vos enfants vont trop loin, qu'ils testent vos limites, si vous êtes fatigué dans une période où vous êtes plus stressé, peut-être que ça vous arrive de crier après vos enfants. Et ce, même si vous êtes un bon parent, même si vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif, est-ce que c'est possible d'éviter de crier après ses enfants? En deuxième partie d'émission, Mélanie Dugan, elle, coach familiale et formatrice chez Grandir, nous dit que oui et elle nous proposera des astuces. D'abord, mars, qui est le mois du cancer colorectal, un cancer qui cause beaucoup de décès au Québec. On dit que c'est la deuxième cause de décès par cancer dans la province, devant les cancers du sein et de la prostate réunis. Et selon les chiffres de la Société canadienne du cancer, chaque jour, 18 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer colorectal et 7 en meurent. C'est énorme, ça touche beaucoup de gens et leurs familles, bien sûr. Donc aujourd'hui, en ce mois du cancer colorectal, on se donne l'opportunité de parler de prévention et de l'importance également du dépistage précoce avec André Beaulieu, porte-parole et conseiller principal de la Société canadienne du cancer. André Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous reparler aujourd'hui. Dans la presse, on apprenait, pas plus tard qu'aujourd'hui, que la Société canadienne du cancer demande au gouvernement québécois de mettre en place un programme de dépistage du cancer colorectal parce que c'est pas encore en place. Je pense qu'on est la seule province au Canada pour qui ça tarde et également parce qu'on pourrait sauver plein de vies.
Effectivement, malheureusement, le Québec a du retard par rapport à l'implantation d'un programme organisé pour le cancer colorectal. On en a un sur papier, mais il n'est pas encore appliqué, si on peut dire, pour la population. Il n'y a aucune personne qui a encore été invitée, justement, à subir un test de dépistage. C'est un test simple qu'on fait à la maison tous les deux ans. Les personnes âgées de 50 à 74 ans, éventuellement, seraient invitées, justement, à passer un petit test, à savoir si on a du sang dans ses selles. Et c'est cette présence de sang peut être un signe de cancer. Et c'est avec ça, justement, qu'on détermine qui devrait passer une coloscopie pour savoir si oui ou non il y a présence de cancer. Alors, on a du retard et on demande au gouvernement, justement, de dire, écoutez, il faut établir un échéancier parce que le programme a été annoncé en 2010, nous sommes en 2015 et on est encore dans la réorganisation des soins. Et pour nous, 5 ans, c'est beaucoup. Et pendant ce temps-là, à chaque année, il y a 250 personnes de plus qui meurent du cancer colorectal. Alors, on pourrait sauver énormément de vies si on pouvait implanter ce programme.
Oui, la société pour laquelle vous travaillez, André, estime que 230 à 275 vies seraient sauvées si ce programme-là de dépistage existait.
Exactement, oui, parce que en dépistant ce cancer-là à un stade plus tôt, on aurait à ce moment-là des gens qui pourraient survivre davantage à la maladie. Parce qu'en ce moment, la survie relative à 5 ans pour le cancer colorectal, elle est de 65 %. Mais on sait que si on dépiste un cancer colorectal très tôt, la survie augmente à 90 %. Donc, on voit le gain que l'on pourrait avoir, justement, en dépistant la population non à risque, la population générale, et déterminer qui, malheureusement, est atteint d'une maladie qui s'appelle le cancer colorectal et s'assurer qu'on les trouve, justement, ces cancers à un stade peu avancé, ce qui veut dire moins de traitement, oui, une meilleure qualité de vie et, finalement, aussi, plus de gens qui vont survivre.
Oui, une meilleure espérance de vie au bout de la ligne.
Exactement.
Tout à l'heure, vous disiez que ça viserait les gens de 50 à 74 ans, des tests que les gens pourraient faire à la maison. Donc, quoi, on leur enverrait un petit colis à chaque année?
Oui, en fait, ils recevraient une lettre se disant où se présenter, soit à la pharmacie, c'est pas encore déterminé, mais ça pourrait être au CLSC, ça pourrait être à différents endroits où les gens pourraient aller chercher un petit kit, si on peut dire. C'est un petit... Il y a une feuille, une directive, ce test FIT qu'on appelle, c'est un test immunochimique qui cherche la présence de sang spécifiquement au niveau du côlon et du rectum Et contrairement à ce qu'on avait auparavant comme test, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, c'est une fois qu'on passe ce test, un échantillon une seule fois. Avant, c'était trois fois qu'on devait le faire, trois jours de suite. On avait des restrictions au niveau de certains médicaments, des restrictions alimentaires également. Donc, aujourd'hui, on a un test quand même très fiable qui peut justement amener à détecter de façon assez sécuritaire, là, tout à fait sécuritaire, qui doit, comme je vous dis, passer une coloscopie. Parce qu'une coloscopie, c'est invasif, hein, il y a un risque. C'est aussi une intervention qu'on doit faire dans une clinique spécialisée ou encore en milieu hospitalier.
Oui, en référence avec un gastro-entérologue, là, mais il faut l'avoir, ce spécialiste-là.
Exactement. Donc, on ne peut pas se surcharger parce que quand on pense de mettre en place un programme organisé où l'on cible 2 millions de personnes, hein, il y a 2 millions de personnes au Québec qui ont 50 à 74 ans, il faut s'assurer, oui, OK, on passe le test, mais si vous avez une présence de sang dans les selles, il faudrait idéalement dans un délai de 60 jours, passer une coloscopie. Et malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui dépassent ces délais-là. Et si on passe un test, puis après ça, on vous stresse pendant des mois, hein, à la maison sans savoir ce que vous avez, c'est pas ce qui est souhaité. Alors, c'est pour ça que nous, on dit, ouais, OK, organisez-vous. On sait que depuis 5 ans, la réorganisation, les listes d'attente ont été diminuées dans plusieurs centres. Il y a une réorganisation des soins dans le domaine de l'endoscopie et de la gastro-entérologie. Mais il faut justement, là, mettre des échéanciers bien précis. Il faut savoir ce qui reste à faire pour arriver justement à un programme organisé. Est-ce qu'on va y aller par étapes? Est-ce qu'on va décider de le faire de façon globale? Tout ça reste à déterminer, mais il reste que pour nous, on dit à chaque année qui passe, c'est des vies de moins, effectivement, des personnes qui décèdent d'un cancer qu'on aurait pu éviter.
André, est-ce que l'on sait pourquoi les autres provinces ont emboîté le pas et pas le Québec?
Ben, en fait, ça fait de plusieurs années que l'idée de mettre en place un programme organisé du cancer colorectal, les données scientifiques démontraient un avantage. Malheureusement, le Québec a tardé. Ça a pris beaucoup de temps pour que l'Institut national de la santé publique et l'INES, qui est responsable justement de l'évaluation des différents tests et des médicaments mis sur le marché au Québec, puissent arriver avec une recommandation au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je crois que ce qui a vraiment fait qui a vraiment retardé, c'est qu'on se rendait compte justement qu'il y avait déjà des délais dans le domaine de la coloscopie et de l'accès à un gastro-entérologue. Et là, on se disait, mon Dieu, il faudrait régler tout ça. Mais on savait, je pense qu'au début, on ne savait pas trop comment prendre cette énorme tâche et l'organiser. Mais clairement, avec l'Institut national de la santé publique, l'INES, a fait des rapports, ils ont démontré qu'on pouvait justement relever ce défi au Québec. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Il y a des pays comme la France, justement, qui ont des programmes depuis plusieurs années. Il y a des provinces beaucoup plus petites au Canada qui ont déjà des programmes en place et qui ciblent déjà une clientèle. Donc, les gens de 50 à 74 ans participent déjà, passent déjà des tests. Et c'est ça. Alors, je pense qu'il faut... À un moment donné, c'est une question de volonté aussi, hein, de priorité. Et c'est ce qu'il faut se dire parce que s'il n'y a pas le temps, là, on parle beaucoup de coupures dans le domaine de la santé. Ben, ce serait complètement surréel de dire que l'on va couper dans le programme de dépistage du cancer colorectal parce que ce serait vraiment une vision à court terme parce qu'à long terme, ça va nous coûter beaucoup plus cher.
Et en même temps, ce qui est surréel, André, c'est que ce que je disais, je ne suis pas une experte, vous l'êtes beaucoup plus que moi et vous me direz que le cancer colorectal, c'est le seul cancer qu'on peut prévenir avant.
Oui, effectivement, c'est ça, parce que en passant une coloscopie, évidemment, c'est pas par le test que l'on passe à la maison qu'on peut avoir à savoir si on a, oui ou non, ce qu'on appelle des polypes. Oui. Des polypes, ce sont des petites masses de chair que l'on trouve sur la paroi du rectum ou du côlon. Et ces petites masses-là, avec le temps, deviennent souvent un cancer. Alors, en les enlevant, parce que finalement, elles n'ont pas raison d'être, on les enlève, on évite à la fois autant un cancer que d'autres problèmes de santé gastro-intestinale. Alors, finalement, c'est très avantageux parce que c'est ça. C'est le seul cancer que l'on peut complètement éviter dans ces cas-là.
On parle beaucoup de dépistage précoce. Est-ce qu'il y a... Bon, avant le dépistage, il y a aussi la prévention. Quelles sont ces façons de prévenir le cancer colorectal?
Ben, en fait, c'est sûr que malheureusement, si dans sa famille, il y a des antécédents familiaux, si on est porté par différentes maladies, qu'on est prédisposé à avoir des polypes, ou des maladies certaines maladies gastro-intestinales, malheureusement, on peut peut-être pas le prévenir. Hein, mais c'est pour ces gens-là qui savent qu'ils sont plus à risque, justement, bien avant l'âge de 50 ans, parlez à votre médecin de votre risque potentiel de cancer colorectal et voyez avec lui quels sont les tests que vous pourriez mettre en place et quels sont aussi, peut-être que vous allez devoir passer une coloscopie bien avant parce que vous êtes considéré à risque.
Mm-hmm. Pour... On parle ici de maladie de Crohn, colite ulcéreuse, je pense.
Exactement. Des troubles génétiques rares. Les gens, effectivement, les facteurs de risque si on regarde par les plus importants, c'est les antécédents familiaux, les polypes. Mm-hmm. Mais ensuite, le syndrome de Lynch, les troubles génétiques rares, l'inactivité physique, l'embonpoint, l'obésité est un facteur de risque. L'alimentation riche en viande rouge. Mm-hmm. Alors, les gens qui consomment beaucoup de viande, on leur dit, écoutez, diminuez un peu, variez votre alimentation. La consommation de viande transformée, les charcuteries, entre autres. La consommation d'alcool. L'alimentation faible en fibres, parce que finalement, un transit intestinal favorable, si on peut dire, est un facteur de protection pour le cancer colorectal. Donc, tout ça, ce sont des moyens, justement, que les gens peuvent, en sachant ça, on peut peut-être arriver, justement, à prévenir la maladie. Mais encore là, je vous dirais que, malheureusement, comme dans le cas de beaucoup de cancers, on ne connaît pas la cause.
Mm-hmm. Maintenant, on a parlé beaucoup, on a parlé de dépistage précoce, on a parlé de prévention également, et sans vouloir inquiéter les gens qui nous écoutent, André, est-ce qu'il y a des symptômes, est-ce qu'il y a des signaux, des signes avant-coureurs qui peuvent nous inquiéter et nous amener à poser des questions justement à notre médecin?
Bien, souvent, malheureusement, à un stade peu avancé, il n'y a pas vraiment de symptômes, parce que du moment que vous êtes si vous voyez une présence de sang vous-même dans vos selles, c'est que c'est vraiment, il y a à ce moment-là, peut-être que malheureusement, la maladie est à un stade plus avancé. Hein? Je dis toujours peut-être, mais souvent, finalement, quand on a des selles noires ou selles rouges, c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, comme je vous dis, parce que quand on passe le test à la maison, c'est on appelle le sang occulte, du sang invisible, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Hein? Et déjà, il y a présence de la maladie. Mm-hmm. Mais évidemment, tout ce qui est du mucus que l'on pourrait retrouver dans nos selles, une diarrhée persistante, la constipation qui n'arrête pas, toute forme de saignement, comme quelqu'un qui n'est jamais capable de sentir qu'il puisse évacuer complètement ses intestins. Tout ça est peut-être un signe de cancer, mais en même temps, c'est peut-être aussi un signe de d'autres maladies.
Mais oui,
donc, il ne faut pas hésiter plutôt à parler à son médecin. N'attendez pas, justement, parce que plus on attend, plus à ce moment-là, le risque d'avoir un cancer avancé est grand. Et un cancer avancé, le pronostic, c'est comme je vous dis, c'est aussi tout ce que ça peut vouloir dire de se faire enlever une partie du côlon ou du rectum, de devoir avoir une colostomie. Ça joue beaucoup sur la qualité de vie des personnes.
Oui, les impacts sont immenses. Ouais. Quels sont les traitements? J'imagine, bien sûr, chimiothérapie, là, on n'y échappe pas.
La chirurgie, à la base, on va enlever la tumeur. Évidemment, dans certains cas, si c'est un stade très peu avancé, on peut enlever carrément la tumeur qui va être en surface du côlon et il n'y aura pas de métastase, il n'y aura pas la tumeur va pouvoir être complètement enlevée et même certaines personnes vont éviter complètement la chimiothérapie ou la radiothérapie. Mais plus le cancer, quand on évalue toujours un cancer par rapport au stade, donc est-il juste en surface? A-t-il pénétré la muqueuse du côlon? Une fois qu'il a migré dans le système lymphatique, à ce moment-là, c'est des métastases. Donc, on parle de stade 4. Alors, tout ça complique les choses, mais il y a aussi l'agressivité du cancer. Et ça, c'est un autre chose. On évalue à savoir si le cancer en question évolue vite ou plus lentement. Alors, s'il évolue vite, à ce moment-là, il faut intervenir davantage auprès de la personne. Puis, évidemment, l'âge va jouer, la condition de santé, la santé de l'individu. Mm-hmm. Hein, si une personne a déjà des problèmes de santé importants, elle ne pourrait peut-être pas tolérer que l'on puisse intervenir avec des chimiothérapies sévères. une personne plus jeune en général va être plus apte à accepter ce genre de traitement. Mais encore là, il y a toujours des exceptions. C'est vraiment du cas par cas.
Et tout ça dépend ou a un impact sur les chances de survie par la suite.
Exactement. Alors, on ne peut pas... Bon, bien que je vous ai dit tantôt que la survie relative du cancer colorectal à 5 ans est de 65 %, elle augmente à 90 % pour les cancers peu avancés, il reste que ça demeure un chiffre. Hein. Personne n'est une statistique. Alors, c'est ce qu'on dit toujours à quelqu'un qui appelle et qui se demande est-ce que mon père, mon conjoint ou qui voudrait savoir ou la personne elle-même qui téléphone et qui appelle notre service d'information sur le cancer et qui voudrait... se faire dire quelles sont mes chances de survie ou quel est mon pronostic, on fait toujours comprendre que c'est un chiffre, c'est une moyenne et ce n'est pas une vérité en soi. Hein? Chaque personne est unique, comme je dis, chaque personne peut répondre à un traitement de façon différente et on survit beaucoup au cancer aujourd'hui. Énormément de gens vont être en vie et avoir même une vie quand même. Est-ce qu'on a une vie comme avant? Peut-être pas, parce qu'il y a toujours, vous savez, un choc hein, émotionnel ou des conséquences quand on a une maladie comme le cancer, mais reste qu'il y a une vie après le cancer et définitivement, on le voit aussi pour les gens qui ont la maladie qui s'appelle le cancer colorectal.
André, en terminant, je sais que la Société canadienne du cancer est tournée vers le public. Vous êtes là pour offrir beaucoup de ressources aux gens touchés par le cancer, leur famille également. Si des gens nous écoutent et qu'ils vivent avec cette réalité du cancer colorectal, vers quoi ou vers qui ils peuvent se tourner?
Bien, facilement, ils peuvent aller sur l'Internet, sur le site de cancer.ca. Il y a une foule d'informations sur tous les cancers. Cette information est valide autant pour les personnes qui sont directement touchées par la maladie que les aidants, que l'entourage, enfin, tout. Il y a effectivement aussi un numéro, notre service d'information sur le cancer, le numéro 1-888-939-33-33. Ce numéro, finalement, permet à parler à un spécialiste entre ce qui a trait au cancer, demander des questions. Dépendant où on vit au Québec, on va avoir à ce moment-là une liste de services qui sont offerts dans notre communauté. On peut aussi offrir du soutien. Il y a des groupes qui sont mises en place. On a également du soutien de spécialistes, serait-ce que dans certains cas, je veux dire, pour l'estime de soi. Des fois, c'est en ce qui a trait à tout l'aspect, la vie après le cancer au niveau de la sexualité. On a des spécialistes que les gens peuvent être jumelés, justement, où on va pouvoir les aider. Ou encore, comme Cancer J'écoute, qui est un jumelage de personnes qui a passé. Donc, une personne a eu un cancer colorectal à 45 ans. Elle voudrait parler à une personne qui a eu ce diagnostic à peu près à la même âge et qui, elle aussi, avait des enfants, etc. Donc, on va essayer justement de faire ce jumelage le plus près possible de la réalité de la personne. Et ce jumelage-là se fait aussi longtemps que la personne en a besoin.
André Beaulieu, merci beaucoup. On souhaite bien sûr que le ministre Barrette soit à l'écoute de ce programme de dépistage du cancer colorectal que vous tentez de déployer du côté de la Société canadienne du cancer. On suivra ça de près.
Oui, on le sait qu'il est à l'écoute. On le sait qu'il est très ouvert à cette question et je pense qu'il nous a dit, les gens au ministère nous ont dit qu'il voulait faire avancer ce dossier.
Bon, bien, voilà une bonne nouvelle en ce mois du cancer colorectal. Vous êtes porte-parole et conseiller principal de la Société canadienne du cancer. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Bonjour Mélanie Dugan.
Bonjour.
Vous êtes coach familial et formatrice chez Grandir. Vous êtes avec votre puce l'IA qui est en régie avec Jean-Sébastien. Est-ce que ça vous arrive de crier après l'IA?
Crier,
Ben, lever le ton, oui.
Je pose cette question, c'est pas anodin, c'est bien sûr pas pour vous mettre dans l'embarras, mais plutôt lié à une étude américaine qui a été effectuée en 2003 et qui révélait que 89 % des parents crient après leurs enfants et se sentent coupables par la suite. Ça va souvent ensemble parce que on veut pas crier après nos enfants, mais c'est parce qu'il y a certaines situations qui nous dépassent. Mais c'est possible d'éviter de le faire. Vous êtes là un petit peu pour nous parler de ces astuces-là. D'abord, pourquoi ça serait peut-être pas l'attitude à privilégier d'entrée de jeu?
Bien, le plus évident, ne serait-ce qu'on entend souvent parler à quel point on est un modèle pour nos enfants. Donc, c'est sûr que si nous, on se met à crier en tant qu'adulte, ce qu'on leur enseigne, c'est de faire la même chose. Ce qu'on leur enseigne aussi, c'est « mais pour te faire entendre, tu dois crier.
Mm-hmm. »
Et c'est pas ce que je veux leur enseigner. Donc, d'une part, il faudrait d'abord qu'on commence par être un modèle positif parce qu'on en est un de toute façon. D'autre part aussi, j'aurais envie de dire, surtout dans le cas où il y a des parents qui crient beaucoup pour tout et pour rien, ça ne permet pas aux enfants non plus de faire la distinction entre qu'est-ce qui pourrait être dangereux et important parce que, bon, on s'entend, il y a des situations où est-ce que c'est peut-être important de crier. Si j'ai un enfant de 3 ans qui s'apprête à courir dans la rue, c'est pas le temps de commencer à dire « Hey, mon petit loup, reviens à la maison. » Donc là, il faudrait que je lève le ton. Mais si je suis toujours en train de crier, il ne pourra pas faire les nuances justement entre « OK, là, wow, stop, il faut que j'arrête immédiatement. » Puis ben, c'est juste papa et maman qui s'énervent.
Oui. Je lisais quelque chose qui m'a... Je trouve c'était une belle image extrêmement révélatrice que quand le parent crie pour dire qu'il n'en peut plus, qu'il est à bout, comme on dit ici au Québec, c'est un petit peu le signal que l'on donne aux enfants que le capitaine du bateau ne sait plus quoi faire et qu'on est en naufrage un petit
tellement.
Peu.
Tellement. Parce qu'effectivement, au moment où est-ce qu'on commence à crier, on a perdu le contrôle.
Oui.
On n'est plus en position de le parent chef de meute de sa gang, du leadership. Au contraire, on vient de le céder, là, complètement.
Mm-hmm. Mais comme cette étude qui a été effectuée aux États-Unis en 2003 l'exprime, c'est très difficile de ne pas crier pour X, Y raison après les enfants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de le faire, Mélanie?
C'est sûr qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il faudrait comme parent juste commencer par observer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus problématiques? Est-ce que c'est, ne serait-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est moi comme parent, des fois, qui est souvent en bout de nerfs, à bout de patience? Donc, si c'est moi qui semble être... J'ai l'impression que des fois, on est dans un rythme de vie tellement accéléré, on a l'impression qu'on n'a plus de temps pour nous. Mais il faudrait peut-être commencer par dire de quelle façon est-ce que je peux intégrer un petit peu de temps dans mon quotidien ou dans ma semaine pour me ressourcer moi. Parce que bon, à la base, il faut d'abord se ressourcer comme parent. Ensuite, il faudrait aussi vérifier, est-ce que c'est parce que je manque de moyens?
Mm-hmm.
Peut-être que je ne sais pas quoi faire. Une des choses fort simples, souvent je me rends compte quand je rencontre les familles, dans mes premières questions que je pose, c'est « Bon, est-ce qu'il y a des règlements ici? » dans la maison. Et spontanément, les parents vont me répondre oui. Mais la question qui suit, c'est parfait. Quels sont les règlements? On se regarde, puis il n'y a pas personne qui sait quoi répondre. Donc, il faudrait peut-être commencer par établir c'est quoi les limites dans la maison, les règlements, et avec les enfants, pour qu'ils puissent savoir exactement qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis quand je dépasse une limite, qu'est-ce qui arrive? Donc, comme parent, de prévoir tout ce plan de match-là.
Est-ce que cette discipline-là est cohérente aussi?
Tout à fait. Puis c'est parce que faut voir plus loin que juste vouloir cesser quelque chose immédiatement. Si mon objectif, c'est de les éduquer puis de les amener, si on pense, je pense par exemple à la résolution de conflits, mais il faut penser à du plus long terme. Donc là, on va justement établir un plan de match. Puis c'est quoi les conséquences et je fais quoi comme parent pour m'assurer que ça soit les consignes soient respectées? Par contre, si je ne vois pas à long terme, puis je suis dans l'immédiat, mais ça, je crie, soit je me trouve à régler les conflits pour les enfants, mais je ne leur permets pas de développer des stratégies parce que je veux juste que ça arrête maintenant.
Mais quand on sent que ça monte, là, parce que parfois c'est inévitable, hein, comme je tente, parce que je ne veux pas culpabiliser les parents, ça pour moi c'est très important. Quand on sent que ça monte, on s'isole, on va se cacher dans la salle de bain, on va prendre une marche.
Absolument! Pourquoi pas? Puis non, je suis d'accord avec vous, la culpabilité de toute façon, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire par contre, c'est se responsabiliser. Et il y a une chose qui est importante, c'est pas les enfants qui nous mènent à crier. Je suis responsable de mon comportement comme adulte, autant comme l'enfant est responsable de son comportement comme enfant. Donc, juste faire « OK, si c'est quelque chose que j'ai tendance à faire régulièrement, maintenant, je fais quoi? » Donc, oui, justement, une des premières choses, c'est de commencer à s'observer, nous. C'est quoi mes premiers signes là, qui commencent à monter, puis d'arrêter à ce moment-là. Que ça soit de dire, je prends 10 secondes pour aller à la salle de bain, me passer des barbillettes d'eau froide. Je parlais justement avec ma fille en route, puis elle me disait, des fois, là, quand tu sens que je commence à être fâchée, qu'est-ce que je fais? Ben, des fois, tu nous le dis, hop, je m'en vais dans ma chambre pour 5 minutes.
Ouais.
Je vais aller respirer parce que c'est moi là, qui ai besoin d'un temps d'arrêt. On pourrait aussi... Je prends beaucoup de faire des techniques de respiration puis de relaxation, mais ces belles techniques-là sont efficaces quand on les pratique sur une base quotidienne. Je ne peux pas commencer à les pratiquer juste au moment où je suis fâchée.
Mais oui.
Faut que je l'intègre d'abord. Donc, pourquoi pas le pratiquer avec les enfants? On fait ça tous les jours, 2 minutes. On respire quand ça va bien, parce qu'à ce moment-là, on va l'intégrer, puis quand ça va commencer à dégénérer, je vais pouvoir le pratiquer, puis je vais être capable de le faire, là. Et là, ça peut avoir son sens.
Et ce que je retiens, c'est de prendre du temps pour soi.
Absolument.
Aussi. Oui.
Oui.
Si ça arrive quand même, on a crié après les enfants, on se sent comme un monstre, comme le pire parent, mais c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière, on fait quoi?
Bien, moi, j'ai envie, la première chose, ça serait d'aller voir nos enfants, puis on peut s'excuser, nous aussi. Hein.
Mm-hmm.
Ça ne veut pas dire parce que je m'excuse comme parent que j'accepte le comportement que les enfants ont eu s'ils ont été désagréables. Ce que je fais, c'est que je m'excuse par rapport aux gestes que moi, j'ai posés. Puis je trouve que quand on s'excuse comme parent, ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants, c'est l'humilité. Je ne suis pas parfait.
Mm-hmm.
Mais maintenant, voici ce que je vais faire. Je me souviens d'une maman, justement, une maman avec qui j'avais travaillé quand je suis arrivée à la rencontre, elle m'avait dit, bon, je ne suis pas fière de moi, j'ai crié cette semaine après ma fille. Je l'ai envoyée dans sa chambre, puis je lui ai demandé de m'écrire une lettre de réflexion. Mais elle dit, comme je me suis rendu compte que j'avais crié moi aussi, puis ce n'était pas la meilleure chose à faire, ben je me suis assise et je lui ai écrit une lettre à mon tour.
Mm-hmm.
Je fais, mais c'est génial.
Ouais, ouais.
Et de là, on peut apprendre ensemble.
Et on peut se donner des trucs personnels. Encore une fois, Mélanie, je lisais qu'une maman, en pleine crise, là, est en train de chicaner ses enfants. Et là, moment d'arrêt, elle s'assoit par terre, puis elle dit... on pourrait peut-être se faire un câlin.
Tellement.
Et que là, oh, ça désamorce, puis là, il y a une discussion qui s'installe. Très rapidement, parce que le temps file quand on est bien accompagné, c'est l'enfant qui crie après nous.
Oui, bien, des fois, j'aime beaucoup l'idée justement de la maman qui s'est assise par terre, puis dans cette même lignée, cette même ordre d'idée-là, parce que ça dépend toujours du contexte, l'enfant qui crie après moi, pourquoi pas faire l'inverse?
Mm-hmm.
C'est-à-dire que je pourrais m'approcher de lui, puis chuchoter. Qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment?
Ouais.
Tout d'un coup, là, ça aide pas seulement l'enfant, mais ça peut m'aider moi comme parent aussi à justement rester plus calme.
Apaisé.
Oui.
Et bien sûr, avec l'ado, on fonctionne différemment qu'avec l'enfant.
Oui, bien avec l'ado aussi. Puis, il faudrait aussi comprendre pourquoi l'enfant crie. Parce que si l'enfant crie après moi, est-ce que c'est parce que lui aussi, il manque de moyens?
Mm-hmm.
Est-ce qu'il a envie de se faire entendre puis il a l'impression qu'il n'est jamais à l'écoute? Donc, je vais juste nommer ce qu'il est en train de me dire. « Hi! » Doit être fâché en tabarouette pour me crier après comme ça. Hein?
Oui, et manquer de façon de communiquer avec moi. Mélanie Dugas, vous êtes coach familiale et formatrice chez Grandir. On peut vous suivre sur votre site www.grandir.com. C'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui.
Merci.
Salutations à Lian qui est en semaine de relâche.
Merci, au revoir.
Merci Jean-Sébastien. On se retrouve demain 14h. Au revoir.